je veux beaucoup de la présence de toutes les personnes qui sont dans la salle pour ce séminaire que nous avons appelé le problème John Locke. Je vais brièvement présenter les intervenants avant d'essayer tout aussi brièvement d'expliquer quel était le projet qui était le nôtre. Je me réjouis beaucoup de recevoir le professeur Tom Poole.
It's great to have you.
Thank you.
I've lured you into the seminar, which will be mostly in French.
Great. It's good for me.
Tom est professeur de droit à la London School of Economics, mais c'est également un éminent spécialiste d'histoire des idées politiques à la frontière entre le droit public et cette discipline, ce qui est dans la tradition de la London School of Economics. I'm saying a lot of good.
Yeah, that's right. No, I follow so far. It's all good.
It's all good. Il s'est particulièrement signalé l'an dernier, en 2016, par un ouvrage qui s'appelle Constitutional Reason of State. Et il y a maintenant quelques années, je crois que c'était il y a 3 ans, par un livre co-dirigé avec David Eisenhaus, qui s'appelait Hobbes and the Law, et qui a un petit peu... Je dirais pas servi d'inspiration au séminaire d'aujourd'hui, mais we thought we should do something. along the same lines, on Locke and Law. Je suis aussi très content de re-recevoir Amnon Lev, qui est professeur de droit public à l'université de Copenhague, qui est... Alors, le hasard veut que, tout en étant un professeur de droit public, c'est aussi un très bon spécialiste de Hobbes, puisque tu lui as consacré un ouvrage qui s'appelle Sovereignty and Liberty, A Study of the Foundations of Power, qui était chez Routledge en 2014 et qui est en train d'être traduit en français, c'est ça ? Qui est en cours de traduction en français. Donc c'est pas totalement le hasard qui fait que deux spécialistes de Hobbes sont convoqués, si j'ose dire, sont invités en tout cas avec beaucoup de plaisir à l'Institut Villèbre pour parler de Locke. Je vais essayer très brièvement et sans chercher à en dire plus que les intervenants, mais à expliquer un peu pourquoi il a semblé intéressant de poser à nouveau frais la question de John Locke dans une enceinte qui est celle des facultés de droit, même si l'Institut Villers a un peu un statut d'extraterritorialité. En travaillant sur le principe de majorité il y a quelques années, je m'étais avisé que le réflexe qui avait été bon ou mauvais, le mien, qui était de relire Locke et d'essayer de voir ce que Locke avait à dire sur le principe de majorité, n'était nullement le réflexe de la théorie politique contemporaine et qu'il avait été évacué. Que désormais, quand on parlait de ce qui semblait un problème lockien par excellence, c'est-à-dire la fondation du principe de majorité dans les systèmes politiques, il n'était plus sur la scène, il faisait plus partie du casting. Et ça m'avait frappé, tout en me disant que c'était pas, il n'y avait pas d'illégitimité nécessaire à ce geste, et qu'il est évident que la présence d'un quelconque auteur n'est pas nécessaire dans un corpus, et je dirais même la présence d'un corpus n'est pas nécessairement ne s'impose pas, ou du moins la théorie politique a évolué dans une direction où bien souvent on discute des sujets complètement avec une table rase et sans se dire qu'on a pensé X, qu'on a pensé Y. La doctrine des grands auteurs est un petit peu derrière nous. Il est aussi permis de penser que ça n'est pas nécessairement une bonne chose, et que si Locke, pendant aussi longtemps, a occupé le devant de la scène dans la réflexion politique, y compris dans cette sorte particulière de réflexion politique qui a lieu dans les facultés de droit et chez les juristes, ça n'était pas accidentel. D'où la tentation, je dois dire, comme on dirait dans l'armée de terre, sans idée de manœuvre, sans nécessaires idées préconçues, de reposer la question de la présence de Locke dans nos idées. Qui est-il pour nous, et Locke a-t-il encore quelque chose à nous dire ? Il semble un petit peu loin, elle semble un petit peu loin, l'époque, c'était en 1960, où Louis Althusser, par un admirable geste tendu depuis la Rue d'Ulm jusqu'à la place de la Sorbonne, avait commenté un ouvrage de Raymond Poulain sur Locke, en louant le professeur de philosophie politique plus conservateur que lui, c'est moins que de le dire, pour la capacité qu'il avait eue de bien poser le problème John Locke et de bien aborder le fond de la question lockéenne. Et si Althusser estimait que Paulin avait bien fait les choses, c'était parce que il avait posé les choses philosophiquement et s'en était pas tenu, disait Althusser, à laisser survivre Locke par ses titres politiques et non philosophiques. Quoi qu'on pense au sujet de Locke, et quelle que soit la construction qu'on fabrique à son sujet, la manière dont on vient le ranger dans sa petite cosmologie personnelle, on n'en est plus là. Et si on n'en est plus là, c'est parce que certainement, depuis cette époque désormais ancienne, la question de Locke est posée, premièrement la question de Locke est posée philosophiquement avec un degré de sérieux qui s'est renforcé, et ça c'est spécialement vrai dans la littérature anglo-américaine, et ensuite dans le cas français, grâce à quelqu'un qui est présent dans cette salle en grande partie, qui est Philippe Reynaud, les auteurs politiques peuvent être considérés comme des philosophes sérieux, et il y a eu une convergence d'opérés entre le grand corpus de la littérature politique et la philosophie, de sorte qu'il semble délicat de considérer qu'un auteur politique important, que ce soit Locke ou par exemple Montesquieu ou Tocqueville, n'est pas pour autant un grand philosophe et qu'appartenir à l'un des clubs empêche d'appartenir à l'autre. La situation a bien évolué de ce point de vue-là. Il demeure qu'un certain nombre de problèmes que soulevait d'ores et déjà à la fois donc, Althusser et Raymond Paulin dans les années 60 demeurent pour nous, et que essayer de comprendre Locke ne va pas de soi. Je vais simplement plutôt décrire les tourments du lecteur de Locke que je suis, en imaginant que je ne suis pas le seul de mon espèce, que d'apporter une quelconque réponse ou de dessiner d'avance une préinterprétation de ce qui va être dit après. Il faut quand même reconnaître que longtemps, Locke a été utilisé comme père fondateur de nos régimes politiques, comme une sorte de constituant, n'ayant pas le pouvoir constituant au sens politique du terme, enfin fabricant pour les sociétés libérales modernes, et spécialement avec quasiment le seul texte qu'on lisait en France, en tout cas en droit, avec le second traité du gouvernement, pour les États libéraux et spécialement pour la jeune République américaine, une sorte de roman dont ses lecteurs pouvaient s'imaginer être les héros, c'est-à-dire fixant les conditions de possibilité de la création d'une société politique qui se fondait elle-même. Les tout premiers paragraphes, notamment 8 et 9 du second traité, pouvant se lire quasiment comme une affirmation à la fois du problème de l'autonomie politique sur le terrain de la philosophie politique et de la question du pouvoir constituant sur le terrain de ce qu'on va appeler en général le constitutionnel ou le droit constitutionnel. C'est pas nécessairement un rôle pertinent, parce que ça bloquait la compréhension de Locke, et de le canoniser comme ça empêchait de voir tous les problèmes sous-jacents à ce qu'était le second traité dans son œuvre et à son œuvre en général. Nous ne serons pas les premiers à relever la particulière fragmentation, même pas de sa pensée, mais tout simplement de son corpus. Quelqu'un qui lit l'essai concernant l'entendement humain d'une part et d'autre part le second traité peut penser que ce n'est pas nécessairement le même auteur qui les a écrits, ne pas voir nécessairement la convergence ou les points de conjonction. Et je dirais même que s'il n'y avait pas les premiers paragraphes du second traité, quand on lit le premier traité du gouvernement et le second, la jonction entre les deux n'est pas self-évidente. On ne fait pas face avec Locke à quelqu'un qu'il est facile de ramener à un corpus cohérent, sur lequel il est facile d'apposer une étiquette et ensuite de pouvoir utiliser cette étiquette dans des discussions. Ou bien, comme chez Hobbes, par exemple, à un auteur dont on peut ramener l'œuvre, aussi complexe soit-elle, à plusieurs ébauches d'un même projet politique très unitaire, et ensuite à une série de variations ou de... je ne dirais pas de notes de bas de page, mais l'utilisation de la doctrine politico-morale fondamentale en une série d'exercices latéraux. Je ne sais pas, raconter l'histoire de des guerres civiles en Angleterre, ou faire une histoire ecclésiastique, etc. etc. Et ça tient à ce qu'on doit relever, la tendance avec Locke à ne jamais savoir où se situe le fond, mais je veux dire le fond, comme on dit le fond d'une malle, où se situe le socle, en quoi ça consiste, quel est le projet ultime s'il y en a un, l'épistémologie de l'essai concernant l'entendement humain est-elle véritablement une épistémologie comme beaucoup de modernes, notamment dans chez les philosophes analytiques anglo-américains, ont tendance à vouloir le penser, ou est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement en lire les premières pages et comprendre qu'il y a un projet pratique et même politique très évident que l'auteur ne cache pas, et même si après ces premières pages, il n'en fait plus tellement état de manière extrêmement manifeste. La doctrine dite, entre guillemets, libérale en politique ne se renverse-t-elle pas quand on regarde les choses d'un peu plus près, je ne fais ici que dire des choses qui sont devenues classiques dans le commentaire lockien, ne cache-t-elle pas une finalité théologique assez claire, relative aux conditions d'exécution de la loi naturelle et aux conditions d'exercice par l'homme de la sorte de liberté extraordinairement conditionnée ou conditionnelle, comme dirait un pénaliste, que Dieu lui a attribué sur la terre, finalité théologique dont la, comment dirais-je, qu'il est très difficile de décrire comme étant quoi que ce soit libéral. Il y aurait mille exemples de cette difficulté à aller saisir chez Locke, non pas seulement ce qu'il nous dit, mais même ce dont il nous parle et quel est l'horizon, même en lui attribuant pas une sorte de métaprojet grandiose dont il n'était peut-être pas porteur, parce qu'il a été l'homme de tout un tas d'existences diverses, il a été le philosophe politique, il a été l'agent politique de membres de l'aristocratie, il a été ce qu'on appellerait aujourd'hui le haut fonctionnaire. Est-ce que tout ça a besoin nécessairement d'aller dans la même direction? Non, parce qu'une existence humaine n'a pas nécessairement besoin toujours d'avoir un seul horizon, mais ça nous impose de jamais être totalement satisfait des étiquettes qu'on peut accoler sur lui, et même peut-être de les mettre entre parenthèses, d'arrêter de le penser comme un contractualiste, parce que il y a des données extraordinairement volontaristes et unilatérales dans sa pensée politique, d'arrêter, mais ça Paulin l'avait déjà dit, de le voir fondamentalement comme un empiriste, parce que sa doctrine de la loi naturelle est tellement massivement conditionnante que si empirisme il y a, il est simplement la désignation de la possibilité pour l'individu pensant d'aller comprendre ce qui a été voulu par Dieu auparavant, et donc de découvrir un ordre préexistant. Et il n'y a pas seulement une table rase. Je dis là des choses qui sont connues, je ne cherche pas à innover, mais à vrai dire, toutes ces questions qui pouvaient sembler majeures à beaucoup de gens se situant au carrefour des questionnements juridiques de fond et des études politiques ne sont pas nécessairement résolus aujourd'hui. Et Locke désigne donc toujours pour nous avant tout un problème. Évidemment, je pensais un petit peu en mettant ce titre au problème Adam Smith, c'est-à-dire au fond, il y a tout simplement le Locke. On pourrait simplifier la tâche en disant il y a le Locke de l'essai concernant l'entendement humain, il y a le Locke du second gouvernement, comment est-ce qu'on les réunit? Ça peut être aussi simple que ça et ça va nullement de soi. De même, qui a le Smith de la théorie des sentiments moraux, et puis Smith est ce pseudo-économiste. Moi, j'aime pas dire qu'Adam Smith a une théorie économique, je pense que c'est pas de ça qu'il s'agit, mais bon, on comprend le genre de position du problème que j'évoque. Donc, et pour terminer avec les propos préliminaires ou liminaires, non seulement Locke désigne pour nous avant tout un problème, mais il faut d'ailleurs pour chacun commencer par le poser et donc de poser correctement la question. On n'avait pas décidé d'avance un ordre de parole, mais ce qui est certain dans mon esprit, c'est que je vais parler en dernier pour avoir le plaisir d'écouter d'abord nos deux invités. Maybe we should begin with you, Tom. That's okay.
No, I'm happy to go first.
Yeah. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Tom va parler en anglais. Je pense que c'est pas un problème pour la majorité d'entre vous, mais si, comme je l'espère, il y a discussion, j'assurerai la traduction, peut-être pas simultanée, mais enfin, je ferai semblant.
Very kind.
It's up to you.